La communauté écotable rencontre.
Chères auditrices et auditeurs du podcast Sur le grill d'Écotable, pour ce début d'année 2024, j'ai laissé le micro une semaine sur deux à la communauté Écotable, l'association qui travaille main dans la main avec la société Écotable pour que la restauration durable devienne une réalité. L'association organise notamment des rencontres engagées à Paris, Marseille et Lyon à destination des professionnels de la restauration. Cette hors-série, intitulée « Rencontres », vous fait vivre ces moments d'échange passionnants et stimulants. Amis restaurateurs, amis restauratrices, à écouter sans modération.
Nous sommes la communauté Écotable, l'association qui a pour mission de faire progresser l'alimentation durable en s'appuyant sur un réseau de professionnels engagés. Je suis Lorraine Petit, co-secrétaire générale de l'association et journaliste culinaire. Dans cet épisode, nous allons décortiquer les rapports humains qui se jouent dans les arrières-cuisines. Psst ! Les témoignages que vous allez entendre au fil de votre écoute ont été enregistrés en décembre 2022. Lors de nos rencontres organisées à Paris et Marseille, nous avons échangé sur la gestion durable des ressources humaines. Aujourd'hui, face à leurs difficultés à recruter, les restaurateurs et restauratrices tirent la sonnette d'alarme. La faute au salaire et aux conditions de travail, les Françaises et les Français sont de moins en moins nombreux à vouloir travailler le soir, le week-end et en coupure. L'image stressante du coup de feu en cuisine et le manque de bienveillance de certains chefs ne rendent pas service, et encore moins lorsqu'on est une femme. Alors qu'elles sont presque la moitié parmi les employés de l'hôtellerie-restauration, les femmes ont plus de mal à accéder aux postes à responsabilité. Alors comment repense-t-on collectivement la place des femmes dans les métiers de bouche ? Face à la crise du recrutement dans la restauration, comment renouvelle-t-on les imaginaires autant que les vocations ? Cuisiniers, cuisinières nomades et restaurants réinventés, quelles sont les nouvelles manières d'exercer le métier ? À Marseille, Minou Sabahi, chef itinérante, Mathieu Roche, chef et copropriétaire du restaurant Ourea, et Zoé Guillemot, chef alors en poste au café Mocha, nous expliquent comment leurs parcours ont développé chez eux le besoin de créer un environnement de travail bienveillant.
Tu captes dans les gens qui postulent chez toi ce dont ils ont envie, où c'est qu'ils veulent aller, et ce qu'il leur faut pour avancer. Il faut que ça corresponde à toi, ce que tu vas leur faire faire. Et si les deux vont bien, eux, ils avancent, ils évoluent, ils grandissent. Toi, t'es super content parce qu'en même temps, ils travaillent très bien. Il faut essayer de trouver des gens qui correspondent à ce niveau-là, quoi.
Je pense que le métier de cuisinier, c'est énormément de dévotion dans les deux sens. Le cuisinier est dévoué à son chef, autant que le chef doit être dévoué à son cuisinier de vouloir lui transmettre un savoir-faire de qualité pour que la personne qui vient là avec quasiment zéro expérience ou même un peu d'expérience évolue, apprend. Je pense que c'est cet environnement-là, avec évidemment un environnement de travail sain, une cuisine où tu vas pas te faire mal, ni au dos, ni dans le stress, où tu vas te couper, où on sait tous très bien qu'avec la fatigue et le stress, c'est là où les accidents les plus graves arrivent. Je pense que ça fait partie vraiment des critères de base d'un endroit où les gens ont envie de postuler et de travailler.
Ouais, sans drogue et alcool aussi. Non, mais faut rigoler, mais c'est archi important. Moi, je fais une tolérance zéro vraiment sur la drogue parce que c'est quelque chose qui pousse une équipe et un restaurant à une vitesse folle. Au début, on se dit, ah, c'est pas grave, les mecs, ils vont prendre un petit peu de coke dans les toilettes à la fin. Non, ça part en vrille super vite. Et ça met après une tension et ça devient plus bienveillant du tout, très vite, en fait.
C'est vrai que moi, j'ai toujours, dès que j'ai su, dans les endroits où on me proposait, où j'ai une information, c'était le non immédiat. C'était pas possible. Mais je dois avouer que c'est pas du tout mon milieu, donc j'ai pas plus d'informations que ça, mais je sais que ça peut être répondu. Ouais, c'est connu en tout cas.
Zoé, toi, la question de la formation, c'est aussi quelque chose qui t'attire quand tu cherches à intégrer un endroit ou travailler dans un endroit?
Bah ouais, je pense que on apprend toujours. En fait, c'est un métier qui est en perpétuel. Enfin, tous les jours, on apprend, on rate une cuisson et on se dit bah comment on aurait pu faire, pourquoi on l'a raté, pourquoi ma pâte elle lève pas ou pourquoi. Et moi, avec la voie que j'ai choisie dans les endroits où je vais travailler aujourd'hui, bah, j'apprends moins parce que il n'y a plus d'horaire ou alors c'est moi le chef ou voilà. Donc, à chaque fois, je me dis quand même, j'aimerais retourner et j'ai rencontré Mathieu en entretien il y a quelques mois et ouais, j'avais, c'est un endroit, enfin, où j'avais eu de très bons échos, où on sent que c'est bienveillant, que c'est sain, que y a une belle dynamique d'équipe. C'est un endroit où on va passer un entretien et on ressent que le chef ou la chef, elle a envie de nous transmettre, elle a envie d'apprendre et on n'est pas là juste pour, ouais, ben, pour nous, abattre du travail, en fait.
Il y a des hôtels qui payent plus que nous, il y a des grosses maisons qui payent plus que nous, même si on essaye de payer bien, et je pense qu'on commence à payer bien les gens, mais il faut qu'on soit attractif sur certaines choses. C'est vrai que le cadre, l'ambiance, la manière dont on construit les menus, nous on essaye de... Je fais pas les menus tout seul dans mon coin, je fais une ligne conductrice, on en parle ensemble, on le construit. Donc les gens mettent un petit peu du leur aussi à chaque fois dans ce qu'on fait, donc un peu plus d'amour, donc ils font mieux les choses, moi je suis content. Eux, ils ont l'impression d'être mieux intégrés. Enfin, voilà. Il faut trouver des petites choses comme ça qui fait que les gens soient heureux d'être là. Il faut aussi mettre une petite vie. Alors, c'est pas facile parce que quand t'as que dimanche, lundi, inviter les gens au resto. Pas forcément tout le monde qui veut aller, mais c'est important aussi de fédérer, ouais.
Je trouve que c'est le paradoxe en cuisine, c'est que on peut passer 12, 15 heures par jour avec des gens sans forcément avoir le temps d'échanger. Dans mes premières expériences pro, j'ai passé 15 heures par jour avec des gens où on se touche beaucoup parce que c'est des petits espaces, parce que c'est ça, et on n'avait pas le temps de parler, on n'avait pas le temps d'échanger, et je savais pas avec qui je travaillais, mais je passais 70 heures par semaine avec ces gens-là, et c'est
le bon côté qu'il y ait des profils différents qui viennent dans la restauration et qui fassent ce métier, c'est que ça apporte plein de choses, une vision différente des choses, une vision différente de travailler, juste de la manière de parler, d'échanger, comme tu dis. Tu vois, c'est peut-être que c'est quelque chose qui, quand tu commences tôt, tu comprends pas.
Bien que créer une atmosphère positive au travail puisse sembler évident, certaines équipes, sous la pression du métier, attendent des apprentis qui maîtrisent tous les codes et techniques dès leur arrivée. Minou Sabahi et Mathieu Roche nous rappellent l'importance de la transmission de savoir-faire.
Je pense que ce serait bien de rappeler au chef l'humilité, qu'on a tous commencé à zéro et qu'il y a plein de super profils, comme tu disais, Mathieu, de reconversion, que c'est des gens qui n'ont pas nos codes. Nous, en cuisine, on est pressés, on veut aller vite, on veut que ce soit bien fait. Quand on a de l'expérience, c'est le cas. Quand on n'en a pas, c'est très compliqué, on en met partout, on fait les choses mal, la bienveillance qu'on a longtemps oubliée, il faut qu'elle revienne dans cet espace-là, et je pense que les profils en reconversion sont bien là, comme tu le disais, en management, pour rappeler cet espace qui doit rester aussi dans l'apprentissage, et c'est notre rôle en tant que chef d'expliquer pourquoi ça et ça, ça donne ça, quel effet ça fait, comment tenir son couteau, comment fixer sa planche pour que ce soit stable et même une position du corps, ne pas être comme ça parce qu'on va se faire mal au dos. Ça fait partie de notre rôle et ne pas oublier que c'est aussi d'être chef.
Ce que tu dis sur l'âge et la posture, et ça peut être aussi une des solutions du travail, c'est que on s'éreinte très vite, physiquement très vite, on peut plus faire ce métier, et des cuisiniers de plus de 40 ans, je pense que personne n'en connaît beaucoup qui sont encore derrière les fourneaux. Et c'est aussi une des questions et une des choses à résoudre dans ce problème. De temps en temps, je me sens vieux. Tu vois, après, il y a plein de métiers, hein. Je dis pas qu'il y a plein de métiers durs et de trucs, mais c'est vrai que quand t'es derrière le fourneau depuis longtemps, c'est dur et tu te dis, il va falloir trouver une solution sur le long terme parce que je pourrais pas faire de la production, faire des services, avoir ce rythme de travail jusqu'à 64 ans, c'est certain. Alors, il faut peut-être faire un petit peu plus attention au physique déjà dès l'école, leur expliquer aux jeunes que c'est leur outil de travail, aux positions de travail, mais aussi peut-être au sport, aux étirements. Il y a plein de choses aussi sur le bien-être physique des gens qu'il faut insérer en plus dans la formation, je pense.
Formation à la bienveillance, mais aussi au bien-être physique et à l'hygiène de vie. De nombreuses améliorations peuvent encore être apportées dans les écoles pour contribuer aux changements en cours dans les cuisines.
Mais l'environnement de travail accueillant pour les salariés passe aussi par une clientèle respectueuse. À l'heure de l'instantanéité, les clients des restaurants oublient parfois que derrière leurs assiettes se cachent des hommes et des femmes qui ont travaillé d'arrache-pied pour proposer un menu à la hauteur de leurs attentes. Nos invités marseillais pointent du doigt le fléau qui est devenu le no-show, le fait de ne pas honorer sa réservation sans prévenir le restaurant.
On éduque la clientèle aussi petit à petit sur plein de choses. Hein. Je pense que les gens ont pris des habitudes dans les restaurants qui sont... Des fois, on a l'impression d'être un service public. On répond pas à une demande de réservation le dimanche, on se fait incendier, on a 20 messages sur répondeur le mardi matin. Je pense qu'il faut un petit peu éduquer dans l'autre sens aussi.
Oui, il y a un grand manque de savoir-vivre du client envers le restaurant. Des exigences dans tous les sens, une impatience, ça peut toucher à tous les niveaux. Et on en parle beaucoup sur les no-shows en ce moment. Ça fait partie de la révolution qu'on doit mener, nous, pas seulement dans le fonctionnement propre d'un restaurant et d'une cuisine, mais aussi le client respectueux envers les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour leur apporter un repas qu'ils apprécient, créatif, frais, avec des bons produits. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup d'amour dans une assiette pour que les gens puissent passer un bon moment. Et le retour, ce serait d'avoir le respect de le constater.
Petit à petit, on impose aussi des choses. Enfin, c'est très dur d'imposer à sa clientèle, mais on impose des cartes bleues à la réservation. Moi, c'est quelque chose qu'on voulait jamais faire. On s'est dit avec Camille, on le fera jamais. Bah, elle l'a mis en place cette année, pas pour tous les soirs. Mais on sait que vendredi, samedi soir, c'est les chaises musicales. Ils réservent, ils annulent, ils réservent, ils annulent, ils réservent, ils annulent. On prend la carte bleue, il n'y a plus de problème.
Ouais.
On rappelle les gens à tous les services, pour toutes les résas. Ou sinon, je pense qu'on est sur, je sais pas, 25-30% de nos shows. Donc, toi, tu commandes ta matière première. Tu finis un samedi soir, t'as 40 personnes en réservation. Et si tu prends 20 ou 30% de nos shows, tu fais quoi? Déjà, tu perds le chiffre d'affaires, tu perds le poisson, la viande que tu as commandé pour le samedi soir parce qu'après, tu pars en week-end.
Non, mais le fait de travailler en cuisine, on se rend compte en fait qu'il ne faut pas annuler au dernier moment et qu'en fait, si on annule et qu'on dit qu'on est 10 et qu'en fait, on vient à 8, bah, c'est un morceau de poisson qu'on va acheter ou ce genre de choses et tout ça. Et ça
si on se met tous en même temps à imposer une carte bleue, les gens, s'ils veulent bien manger, ben, ils seront... En plus, tu déposes rien, tu as juste l'empreinte bancaire. On le sait, moi, quand j'ai un no-show, je prélève pas, mais c'est juste le fait de donner leur numéro de carte bleue sur la plateforme, ça les responsabilise. Ils ont peur de perdre l'argent, du coup, ils viennent quand même.
Si bienveillance et patience en cuisine sont les indispensables pour fédérer une équipe, du côté de Paris, le débat de la gestion durable des ressources humaines s'oriente surtout sur la place des femmes dans la restauration et dans les métiers de bouche. Alvina Ledru-Johansson, fondatrice du magazine Cul de Poule, et Isabelle Cabrera, cofondatrice de la pâtisserie Emma Duverret à Paris 11e, nous exposent les obstacles que peuvent rencontrer les femmes qui souhaitent entreprendre dans la restauration.
Là, hier, j'ai cherché des chiffres et je me suis vraiment centrée sur les commerces de bouche. Et c'est assez hallucinant et assez énervant de voir à quel point dans les salariés la part de femmes est assez importante. Exemple, en chocolaterie-confiserie, il y a 71% des salariés qui sont des femmes. Et par exemple, en pâtisserie, c'est 57%, boulangerie 49%, poissonnerie 36%, boucherie 30%. Quand on va voir, par exemple, en chocolaterie 71%, quand on décortique un petit peu les chiffres, 69% de ces femmes-là sont en vente, 17% sont en production. Pâtisserie, 63% sont en vente, 31% en production. En boulangerie, 91% des femmes sont en vente, 15% en production. Donc, on les voit visuellement, c'est parce qu'elles sont à la vente et que derrière, quand il s'agit de faire quelque chose, de créer, ben en fait, elles sont encore malheureusement trop peu présentes. Donc, il y a encore du travail à faire. Et puis après, quand on regarde la part des femmes à la tête de ces entreprises, là, pareil, les chiffres baissent complètement. Enfin, en boucherie, on a atteint 19%, poissonnerie 33%, et le plus, c'est en chocolaterie-confiserie 48%. Mais voilà. Ça évolue tout doucement. Ces 5 dernières années, on gagne un point par-ci par-là, mais c'est encore, faut encore sortir les rames pour que ça évolue grandement. De toute façon, ce sont des métiers qui sont difficiles au quotidien. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, il y a énormément de travail, énormément d'heures, on doit sacrifier beaucoup de choses. Mais t'en parlais au début, par exemple, quelque chose qui revient vraiment régulièrement, c'est la question des banques et des emprunts bancaires, où il y en a beaucoup qui disent, bah, en fait, comme je suis une femme, je n'ai pas eu droit à la même somme qu'un de mes collègues qui faisait la même chose que moi. Ou alors, j'ai dû m'associer avec un homme pour avoir le droit à mon prêt. Il y a une des vigneronnes, elle a galéré pendant 10 ans à avoir son emprunt bancaire, donc à se développer comme elle voulait le faire. Et ça, c'est clairement le fait d'être consomme. Mais oui, clairement, il y a des freins. Après, dans beaucoup de métiers, on dit oui, mais par exemple, la femme, elle a pas autant de force qu'un homme. Ouais, mais c'est pas grave, la meule de fromage, je la fais rouler au lieu de la porter. Donc, ce sont des faux problèmes. On a, je pense, pas mal de force pour s'adapter et puis pour trouver des solutions. Donc, c'est un problème sans l'aide. C'est surtout un problème à travers le regard des autres.
Oui, parfois, en fait, en tant que femme, on se pose trop de questions, on se met soi-même des bâtons dans les roues. Nous, on sait très bien qu'à chaque étape, on allait voir ces fameuses banques, on a demandé trop peu, on était trop raisonnables. Et que moins on demande, moins on est prise au sérieux. En fait, faut un peu gonfler. Parce que de toute manière, quand t'as un projet de travaux, tout ça, t'auras toujours des imprévus qui font que ça va te coûter beaucoup plus cher que ce que tu demandes au départ. Nous, on était très raisonnables au centime près à dire, on a besoin de ça. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, t'es pas prise au sérieux. Donc, en fait, faut y aller. Faut mettre les pieds dans le plat et. Faut pas trop. On se pose trop de questions, en fait, je pense. On se met soi-même des limites.
S'assumer et aller au-delà du rôle et des capacités que la société veut bien prêter aux femmes, c'est ce qu'a fait Alix Gerbet, cofondatrice et directrice du développement de l'association Le Réchaud.
Essentiellement, Le Réchaud, c'est un projet associatif. Depuis 2019, c'est devenu un projet de restauration, mais du coup, c'est un projet qui évolue dans un écosystème de restauration spécifique, puisque c'est celui de la restauration humaniste, comme c'est écrit un peu partout, avec des engagements forts. C'est aussi une entreprise d'insertion. Et en fait, moi, mes interlocuteurs, mon cercle et les gens autour de moi sont principalement féminins. Les autres entreprises d'insertion qui font la même chose que nous, c'est le Refugee Food Festival. C'est Louis et Marine, donc c'est quand même un homme et une femme à la tête. C'est les Marmites Volantes. Les Marmites Volantes, c'est Ariane, qui c'est une femme. Dans la communauté écotable, c'est Lune, c'est une femme. Il y a Saisono, c'est aussi Aïloen, donc c'est une femme. Et malgré tout, au bureau, c'est une femme et Thomas. Mais du coup, moi, à l'inverse, je pense que parce qu'on était un projet extrêmement féminin, malgré tout, autour de nous, et moi, quand je pense à des restaurateurs qui sont dans le monde de demain ou à des gens qui sont un peu pionniers, je pense à Alessandra Montagne, je pense à Manon Fleury, je pense à des vigneronnes que j'ai en tête. Et du coup, c'est peut-être parce que moi, ça s'est construit comme ça, mais moi, autour de moi, je vois énormément de gens. Et du coup, aussi peut-être, je ne m'intéresse que à celles qui portent les mêmes projets que nous. Et je ressens aussi quelque part beaucoup de joie, beaucoup de puissance et beaucoup de courage. Et donc, moi, j'ai beaucoup plus d'espoir et j'entends les chiffres. Hein, mais du coup, moi, dans mon univers à moi, il y a beaucoup de femmes. Et je pense qu'avec un coup de projecteur un peu différent et avec une ligne éditoriale, comme, heureusement qu'il y a des gens comme toi du coup, qui le font, mais en fait, on est beaucoup. Et on est beaucoup aussi à entreprendre et à porter des projets qui sont d'envergure et qui ont un impact et qui sont puissants et à être des femmes. Donc, ce n'est pas impossible. Et du coup, moi, je vois pas les barrières parce que on est entouré de faiseuses. Donc, je pense que c'est juste, en fait, le moment où on se lance. Il faut aller chercher les gens qui font comme nous. Ça met peut-être un peu plus de temps parce qu'effectivement, on a peut-être moins la lumière. Mais en fait, on est là. Et du coup, une fois qu'on met un pied dedans, et ben, en fait, on voit toutes les femmes qui font et toutes les femmes qui agissent. Et du coup, je pense que le courage, il va se chercher dans le nid. Enfin, c'est la preuve par l'action, en fait. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas visible qu'on n'est pas là. Il suffit de venir nous chercher pour aller puiser l'énergie. On voit qu'à chaque congrès culinaire, c'est que des mecs qui sont dans le jury. Il y a eu un article d'un rembourg de l'immigration qui mettait en avant le fait que c'est que des hommes blancs qui sont plutôt d'un certain âge qui trustent les verbes de leur génération. Mais on voit, c'est ce qui se voit. C'est comme ça que c'est fait aujourd'hui, mais c'est pas la réalité du terrain, en fait. C'est toujours la même chose. C'est comme pour l'histoire d'aller sur un camp de réfugiés ou de passer la porte d'un truc qui semble inaccessible. En fait, à partir du moment où on agit, où on s'intéresse, c'est pas aussi binaire que ce dont ça a l'air.
Si la restauration sociale et solidaire est un milieu sécurisant et favorable pour l'affirmation des femmes entrepreneuses, Isabelle Cabrera et Alix Gerbet nous font part de leurs astuces pour mieux s'affirmer en tant que femme dans un milieu encore très patriarcal.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide. Nous, on voit entre commerçants, nous, on fait partie d'un quartier qui s'appelle le village Popincourt. Et il y a beaucoup... Enfin, on le fait pas de manière consciente en se disant peut-être qu'on s'entraide parce qu'on est des femmes, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on voit des nouveaux commerçants, des nouvelles commerçantes arriver. Et c'est vrai que c'est peut-être plus... quelque chose qu'on fait entre femmes sans rendre compte, en fait. Il y a beaucoup de solidarité dès qu'une nouvelle arrive, de donner des conseils, de s'entraider, de se faire la pub les uns les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, en fait.
Nous, on a mis en place un stratagème qui fonctionne très bien, c'est le nombre. Ce qui fait que quand on est dans les rendez-vous, quand on doit mener les négociations qui peuvent être... avec des hommes d'un certain âge, de modèles un peu vétustes, très verticaux, ou très, qui ont une posture de dirigeant qui est un peu dérangeante, et ben on y va à deux ou à trois, on est trois meufs. Quelque part, on est plus impressionnante à trois que tout seul. Et du coup, on a plus de poids aussi. Et j'ai en tête un exemple très concret d'une négo qu'on a menée dernièrement où, on s'est pointé à trois, quoi. Puis on a dit, on est les trois dirigeantes et en fait, on va négocier à trois. Et du coup, en fait, maintenant que je le dis, évidemment, c'est probablement lié au fait qu'on s'est dit qu'on était des meufs, que dans l'amigo, on n'allait peut-être pas être prise au sérieux. Mais du coup, automatiquement, et c'est peut-être là où il y a des choses qui sont très inscrites en nous, qui font que naturellement, on va se rabaisser ou se mettre en dessous et se dire qu'on a besoin d'être plus. Parce que, en fait, j'aurais peut-être pu la mener toute seule, cette négo, j'en sais rien. Mais de fait, je me suis dit, en fait, nous, on est trois femmes et on va aller affronter ce mec. Et voilà, donc en fait, oui, c'est quand même très présent, mais ça peut aussi être pris d'un axe un peu amusant et un peu malin. Mais encore une fois, nous, c'est possible parce qu'on est historiquement que des femmes, et au réchaud, c'est que des femmes qui sont à la tête de l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un nombre important de femmes à des postes de direction et à responsabilité.
Merci d'avoir écouté Rencontre, un podcast de la communauté écotable que je me délecte d'animer. Réalisation, montage et mixage par Justine Nérini. Le générique est d'Antoine de Boutray. Restaurateurs, restauratrices, producteurs et productrices, élus, citoyens et citoyennes, vous souhaitez faire avancer l'alimentation durable avec nous ? Rejoignez le mouvement. Écrivez-nous sur contact@communautéécotable.fr et adhérez à l'association sur Hello Asso. À bientôt.